écho de l'eau des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté.
El micrófono de Alicia Perris.
Chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir.
Elle existe partout.
Ah oui.
Et puisque c'est une pandémie. Et je trouve que, comme les Espagnols sont beaucoup vaccinés, je pense que c'est presque un peu moins dangereux que dans d'autres pays où il y a moins de vaccins. Mais je suis quand même content. Et puis, quand on est vivant, on prend des risques.
Hein. Ah oui, et surtout une personne comme vous. Hein. Je connais un peu votre histoire. On va en parler. Vous êtes né à Bordeaux, vous avez encore l'esprit du sud, du soleil, malgré toutes les contraintes de votre histoire personnelle. Parce que vous parlez beaucoup du climat, du milieu, de l'influence sur les êtres humains, de l'environnement. Le pregunto si el sur, como él nació en Burdeos y es tierra de sol, del sur de Francia, tiene todavía mucha influencia para él.
Alors oui, les découvertes neurologiques récentes montrent que le milieu affectif, physique, climatique, même l'altitude joue un rôle beaucoup plus grand que ce qu'on croyait sur le développement physique et mental. Par exemple, on sait qu'une femme qui habite en haut de l'Everest, elle fait sa puberté à 20 ans. Et elle met au monde des bébés qui sont tout petits. Alors que la même femme, quand elle descend dans la vallée en bas de l'Everest, femme, elle fait sa puberté à 13-14 ans et elle met au monde des bébés beaucoup plus gros. C'est la même femme.
Nos dice el maestro Cyrulnik que la misma mujer, que por supuesto que el medio y el ambiente es fundamental, que la misma mujer en el monte Everest va a tener su pubertad a los 20 años y que bajando al valle lo va a tener mucho antes. Es decir, que está clarísimo la encrucijada que representan el clima, el ambiente y demás. Vous avez parlé beaucoup dans ce livre des âmes et des saisons, aussi de la résilience, une idée de John Bowlby. Le digo que hable de su concepto de la resiliencia tomado de John Bowlby.
Alors oui, le virus nous a démontré que a fait une expérimentation sur la résilience. Ceux qui avant le virus avaient acquis des facteurs de protection, une bonne parole, une bonne famille, des bons diplômes à l'école, ils n'ont pas souffert du virus. Et ceux qui, avant le virus, avaient acquis une mauvaise parole, un petit diplôme à l'école, des petits métiers mal payés, ont beaucoup souffert du virus. Ce qui fait que l'inégalité sociale a été aggravée par le virus. Donc c'est une démonstration expérimentale qu'on doit donner à nos enfants le plus de facteurs de protection possible, affectifs, verbaux, et culturelle.
Avant les catastrophes, avant l'arrivée des catastrophes.
Qui arrivera.
Oui, sûrement.
Qui arrivera
celle-ci,
sûrement.
Une autre ou une autre. Oui, le pregunto que de la resiliencia, como decía, entonces él explica que es fundamental, que se ha visto de una forma experimental con la pandemia del COVID, que las personas que tenían un buen trabajo, un buen manejo de la palabra en sentido amplio y unos buenos estudios han sufrido muchísimo menos el contagio y el virus que las personas con escasos estudios, un trabajo malo, nulo, mediocre o que no existía. Y entonces hay que preparar a la gente porque es una causa de desigualdad social, claramente, lo que estamos hablando. Vous êtes un enfant juif rescapé de la rafle de 1944. Vos parents sont morts en déportation. Combien de vous y a-t-il des Cyrulnik et combien de gens l'abordent? Ce petit enfant, vous, à qui on a donné un nom plus classique pour fuir les persécutions antisémites à l'époque. Le pregunto cuánto hay de Cyrulnik y cuánto de Jean Laborde, este nombre que le habían puesto para disimular sus orígenes judíos en las persecuciones de, sobre todo el, de la redada de 1944 y todo el periodo nazi en Francia.
Alors, Cyrulnik, c'est un nom russe qui veut dire barbier. Barbero.
Oui, ou coiffeur.
Coiffeur.
Oui.
Coiffeur barbier.
Oui. Oui, il faisait tout. Et, voilà. Et les dents aussi.
Et puis, il faisait les prises de
sang. Oui, oui, oui.
Et mes parents venaient de Pologne et d'Ukraine.
Était polonaise.
Polonaise et de Lutsch. Et quand ils sont arrivés à Bordeaux, c'était en 1936, et je crois que j'ai été conçu un soir de Front Populaire, je crois.
Oh, ça c'est important. Donc à gauche, vous êtes conçu à gauche.
Voilà.
Oui.
Mais ensuite il y a eu la guerre, et quand j'ai été arrêté, j'ai compris qu'on voulait me tuer. J'ai été arrêté par des Français de Gestapo,
ouais,
armés, et la synagogue de Bordeaux était transformée en prison. Et je me suis évadé en me cachant sous le corps d'une dame espagnole qui avait fui le franquisme,
ouais,
et pour venir en France. Mais comme elle était juive, elle a été arrêtée en France.
Deux fois. À cause d'être républicaine et juive.
Voilà.
Bueno, le pregunto entonces que me explique qué hay del niño, el niño Jean Laborde y Cyrulnik, me explica los orígenes de su madre y de su padre, y que su apellido significa barbero, peluquero, y que también hacían tomas de sangre, etc. Y que cuando llegaron a París, él fue concebido seguramente durante el Frente Popular. Entonces le comento, entonces usted ha sido concebido a la izquierda, y se ríe. Y bueno, que cuenta una historia que es bastante conocida y muy terrible, que se pudo salvar debajo del cuerpo de una española fallecida que había huido de España en la guerra civil, y entonces yo le digo, entonces la castigaron dos veces porque era judía, que era judía, y porque huía de la guerra civil, y me dice que sí. Vous avez reçu la Légion d'honneur, publié presque 20 livres ou plus, et vendu des millions d'exemplaires. C'est là pour essayer de vivre comme une forme de compensation, s'il y en a la possibilité. Le pregunto, que le digo que escribió más de 20 libros, que tiene la Legión de Honor, que ha vendido millones de ejemplares, y que si esto se podría vivir como una compensación de lo anterior, si hubiera esa posibilidad.
Alors, la compensation, c'est de modifier la manière de s'occuper des enfants. C'est ça la vraie compensation. Avant, on laissait les enfants se développer tout seuls. Et maintenant, dans la culture moderne, les enfants se développent très mal. Donc si on peut, grâce aux théories de la résilience, si on peut réorganiser autour des enfants un milieu qui les sécurise, c'est ça la vraie compensation. Et en France, il commence à y avoir des réformes sur les 1000 premiers jours, et je sais que les Espagnols vont faire ces réformes aussi.
Et vous en faites partie d'une association, assemblée des experts qui travaillent là-dessus.
Alors le président de la République, Macron, m'a nommé président de la commission qui a proposé des réformes pour l'éducation des enfants, des petits-enfants. Et le Sénat en France a accepté. Y la reforma ha comenzado ya 3 semanas.
D'accord. Le pregunto esto de si es una compensación, pero él retoma de una forma su preocupación por los niños, por la educación de los niños, y dice que es fundamental, que los niños ahora están que están solos, que están dejados y que es fundamental para la resiliencia dotarlos de un medio securizant, es decir, que les dé seguridad, que los empatía también, y que es la única manera de hacer algo positivo, y que él forma parte, él es el presidente de una comisión que organizó el presidente Macron, que está ya funcionando y que también probablemente se haga en España para la atención de los niños pequeños de los 1000 primeros días. Vous avez parlé de l'éloge de la différence. Considérez que l'incertitude est créatrice, qu'il faut chercher un nouveau schéma et vous le faites toujours avec un sourire, un sens de l'humour évident au fond de vous. Le digo que él ha hablado del elogio de la diferencia, considerado que la incertidumbre es creadora, que hay que buscar un nuevo camino y que siempre lo hace con una sonrisa en los labios y muy en el fondo, ¿no? C'est ça, vous savez, je perçois facilement chez vous, excusez-moi l'intrusion, cet sens de l'humour, cette commodité avec les autres,
cet
confort, cette empathie. Ouais.
Alors merci de me dire ça, parce que j'essaie de ne pas trop me prendre au sérieux et j'essaie de me faire pardonner. De dire des choses sérieuses.
Non, c'est pas un compliment, c'est vraiment un sentiment personnel. Me da las gracias porque le digo que él siempre tiene ese sentido del humor y dice sí, que él está encantado de que yo perciba esto y que es su forma de disculparse de decir cosas serias. Malgré des armes et des saisons à la editorial Gedisa, je voulais vous interroger puisque j'ai vu dans la grande librairie parution du livre de votre dernier, j'imagine, livre pour l'instant, pour le moment, Shérif, mes chéris, préfet, Courage, Subishi, en collaboration avec José Lenzini. Bon, c'est une histoire claire, si vous pourriez la résumer brièvement pour que les auditeurs de Radio Sepharad puissent avoir une petite scoop de ce nouveau livre. Le digo que si nous pouvons parler de Shérif Meshari, Prefecto Coraje en Bajo Vichy, qui est un livre que escribió con José Lenzini, contando un poco en racontant Maurice Papon, ces deux paradigmes antagonistes de Maurice Papon et du préfet algérien. En ce livre, il va poner la figure de Maurice Papon, qui va être un fonctionnaire favorable et bon, très obéissant des nazis, et de l'autre part, pour l'autre lado, este señor Shérif Meshari, de origen argelino musulmán, que va a interpretar que aunque sea una orden recibida, eso no se puede tolerar. On ne peut pas tolérer certains ordres. Comme a fait les sous-préfets de Jean Moulin à l'époque.
Alors, j'ai pris cet exemple de biographie. C'est un musulman algérien qui fait des études en France, puisque l'Algérie est un département français.
Oui.
Il devient sous-préfet pendant le gouvernement de Vichy, qui collaborait avec le nazisme, et il refuse d'exécuter des ordres de persécution. On lui demande de faire la liste des juifs de Limoges. Il ne la fait pas. C'était pour préparer une rafle.
Oui, évidemment.
On lui demande de contrôler les officiers de l'armée française pour pas qu'ils partent rejoindre De Gaulle.
Ah oui, en Angleterre, oui.
Il ne le fait pas.
Oui.
Il y a un attentat, on lui demande de faire une enquête pour arrêter les résistants. Il le fait pas.
C'est un héros, quoi.
C'est pas un héros, c'est un homme. Il ne se prend pas pour un héros. Il fait son travail de sous-préfet, mais quand ça dépasse sa morale, il ne le fait pas.
Alors... Mais vu de la partie des papons ou des nazis, c'est un héros, même s'il ne se voit pas comme ça. Él me cuenta que Shérif Meshari, prefecto, no obedece las órdenes de dejar. Tienen que controlar a los oficiales para que no vayan a reunirse con De Gaulle en Inglaterra. No quiere hacer lista de judíos para evitar posibles redadas. Y entonces llega un momento en que dice que son, aunque él es un funcionario, no se puede cumplir. Es el caso justamente opuesto de Papon, que es vendido al enemigo, on pourrait dire un peu sauvagement. Digo que es el caso opuesto de Maurice Papon, que dicho un poco brutalmente es un vendido a los enemigos, ¿no? Les mots juifs condamnés à mort, vous avez dit. Et aussi, comprendre l'histoire, pas de juger. Il faut comprendre l'histoire, pas juger. Et le digo al doctor Cirulli que él dijo, la palabra judío es una condena a muerte. Y comprender la historia es no juzgarla. Y il y a des gens qui éprouvent un bonheur à se soumettre. Oui. C'est l'histoire en Argentine aussi, pendant les dictatures, l'obéissance obligée. Puisque les soldats disaient qu'on les avait donné l'ordre de...
C'est ça.
On leur avait donné l'ordre de tuer, de massacrer.
Je n'ai fait qu'obéir.
C'est ça.
Je ne suis pas coupable.
Sí, la vieja historia también de las dictaduras argentinas y sudamericanas, cuando los soldados tuvieron que dar cuenta de lo que había pasado en esos años negros, dijeron, solo he obedecido, nada más. C'est Milgram aussi, c'est l'expérience de Milgram. Es la experiencia de Milgram, famosísima, ¿no?, sobre la obediencia.
Alors, l'expérience de Milgram a été faite pour essayer de répondre à votre question, jusqu'où doit-on obéir ? Et Milgram montre que 65% des gens acceptent d'obéir jusqu'à infliger des tortures à quelqu'un d'autre. Et il n'y a qu'une personne sur trois qui fait comme shérif, je n'irai pas plus loin, je ne peux pas aller plus loin. Donc ça veut dire que c'est une manière de Maurice Papon devancer les ordres. Il a fait arrêter les enfants, ce que les Allemands ne demandaient pas. Il a fait arrêter les Juifs français, ce que les Allemands ne demandaient pas. Et il a bouclé le quartier pour empêcher les Juifs de s'échapper. Alors que Shérif Meshri reçoit l'ordre de faire la liste, il ne la fait pas.
Lo que dice es que, hablamos del experimento Milgram, conocido de psicólogos y otros estudiosos y periodistas, porque se midió en laboratorio hasta qué punto una persona podía pasar la frontera en la que se comenzaba a hacer daño a personas que estaban recibiendo descargas eléctricas. Si solo uno de cada tres, el 75% de las personas dijeron, uno de cada tres se negaron a hacer esto, y entonces insiste en que Papón no solo obedeció las órdenes de los nazis, sino que fue más allá, como se dice en español vulgar, rizando el rizo, tomándose la justicia por su mano con los niños y con todo tipo de medidas que excedían las que los propios nazis le habían pedido. También ha dicho el biculturalismo, es una fuerza que se puede... Que es porque se puede amar dos culturas como se ama a su padre y a su madre. Vous avez dit aussi le biculturalisme est une force puisque on peut aimer deux cultures comme on peut aimer le père et la mère.
Alors comment on peut aimer deux langues?
Oui.
Chaque langue permet de mieux comprendre l'autre langue. Donc quand on compare, on comprend mieux.
Oui.
Et dans une dictature, on ne peut pas comparer puisqu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle du chef. Donc la dictature arrête la pensée en imposant une seule vérité, un seul Dieu, un seul chef, une seule vérité. Alors que la comparaison offre un début de démarche démocratique et ouvre la conscience. J'aime mon père qui n'est pas comme ma mère, j'aime une langue qui n'est pas comme l'autre et je m'enrichis de parler deux langues.
Ouais.
J'aime deux cultures qui sont différentes et ça me permet de mieux comprendre ce qui est mieux dans une culture ou mieux dans une autre. Le biculturalisme est une richesse.
Ou le multiculturalisme. Sí, explica fantástico porque lo lleva a términos, digamos, supralingüísticos. Entonces dice que querer dos culturas, querer, es como querer dos lenguas. Uno puede querer al padre y a la madre que son distintos y que esto sucede efectivamente gracias a la democracia porque en las dictaduras hay un pensamiento único. Es decir, solamente es aceptable o se puede hacer lo que se dictamina en todos los campos desde una persona o desde un organismo. ¿Qu'auriez-vous fait à la place de Shérif Meshri?
J'espère que j'aurais réagi comme lui. Je rêve, mais je ne suis pas sûr d'avoir eu cette force. Parce que quand j'ai fait mes études de médecine, on nous apprenait qu'il fallait faire les points de suture très vite et ne pas donner de médicaments antalgiques aux enfants parce que ça modifiait les symptômes. Comme j'étais en position d'ignorance, j'étais étudiant en médecine, comme j'admirais les professeurs, j'ai appris à faire des points de suture très vite pour moins faire souffrir les enfants. Et aujourd'hui, on fait couler des gouttes d'anesthésie, on les suture en bavardant avec l'enfant souriant. Donc je me suis soumis. C'est pas bien.
Le pregunto al doctor Cirulicio si qué hubiera hecho él en lugar de Sheriff Mecheri, este subprefecto que desoyó y no atendió las órdenes nazis en favor de su población. Y él dice que él sueña con haber sido como Sheriff Mecheri, el argelino que ha vestido en Francia, pero que desde luego no lo puede asegurar, porque él cuando estudiaba medicina se sometió y le habían indicado que cosiera sin antiálgicos a los niños puntos de sutura y siguió las órdenes. On est en train de nouveau de faire la guerre, vous avez dit. Estamos otra vez en guerra. De toutes parts, de toutes façons, avec tout. C'est pas nécessairement la troisième guerre mondiale, c'est une espèce de guerre endémique.
Oui.
C'est ça. No es la tercera guerra mondiale, sino una guerra endémica.
Et puis, il va y avoir le pays du Proche-Orient et d'Afrique sont en guerre pour des guerres de croyances. Il va y avoir la sécheresse où des continents, l'Espagne commence à souffrir de la sécheresse. Ouais. J'étais l'autre jour au-dessus de Séville, la couronne verte a disparu. En Algérie, il y a la sécheresse, en Afrique.
En Belgique aussi. En France aussi.
En France,
c'est pas comme avant.
En France, assez paradoxalement, c'est la Bretagne qui souffre de sécheresse. Ouais. Alors que la Provence a encore la neige des Alpes. Oui. En Afrique, des lacs entiers sont évaporés.
Oui.
Donc ces gens-là vont mourir.
Oui.
Ils vont venir en Espagne et en France.
Oui.
Il va y avoir un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'actuellement, les murs, on reproche aux Israéliens d'avoir fait un mur que les Palestiniens passent tous les jours pour travailler en Israël ou pour se faire soigner en Israël. Actuellement, il y a une trentaine de murs sur la planète et il y en aura encore plus. Est-ce que c'est bien? C'est une nouvelle guerre endémique, chronique.
Sí, dice que efectivamente es una nueva guerra endémica, que hay más de 30 muros separando poblaciones, que también hay muros creados en países como Israel, que en cambio recibe población árabe que trabaja y que palestina y que va a hacerse cuidar en Israel, pero que es muy importante también el tema de la sequía, porque se está viendo que la gente no van a morir y que no tienen posibilidades. Bon, on va terminer, vamos a terminar. Je vous remercie infiniment, vous et Khedisa, pour l'opportunité de cette interview, un cadeau, une révélation sur un personnage, un savant que j'ai connaissé déjà, dont j'avais lu des livres, mais qui arrive maintenant comme en rêve, à toute sa vérité, à le microphone d'Alicia Perris, live à Madrid.
Merci.
Grand merci à vous, vraiment, à la prochaine.